RCF. Sartre a dit que l'enfer, c'est les autres. La parabole évangélique que nous lisons ce dimanche nous fait comprendre le contraire. Un homme riche, gavé, vivant dans le luxe, va finir par reconnaître que l'enfer, c'est faire bombance dans le cercle fermé d'une jouissance à répétition, c'est l'avoir solitaire, sans circulation, c'est l'incapacité à reconnaître l'existence d'un autre. Pour que cette prise de conscience se fasse, il lui faudra perdre, tomber en terre et vivre un dépouillement salutaire. Pour écouter et commenter cette parabole, je reçois Agnès von Kerbach. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pasteur de l'Église protestante unie de France. Alors nous écoutons l'évangile proposé cette semaine. C'est dans Luc, chapitre 16, versets 19 à 31.
Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail, gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin, et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. » Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous pour que ceux qui voudraient passer vers nous ne le puissent pas et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères. Qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent. Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus.
Agnès von Kerbach, Jésus raconte une parabole. Alors, il y a beaucoup de paraboles dans l'évangile de Luc. Et là, il s'adresse aux pharisiens. Ça n'est pas anodin.
Ce n'est pas du tout anodin. Il faut toujours bien voir à qui telle ou telle histoire est racontée. Ce qui frappe, c'est que Jésus commence comme un conte. Il était une fois. Donc, il s'adresse pas directement aux pharisiens. Et ça, c'est sa manière de donner une chance à ceux qui l'écoutent avec une certaine raideur intérieure, de faire une ouverture, d'entendre quelque chose qu'ils n'avaient pas vraiment envie d'entendre. Et donc le détour par une parabole est ce que Jésus aime à faire, parce que comme dans la parabole, Abraham dit à cet homme riche, « Mon enfant », Jésus ne désire pas que la différence et le combat spirituel qu'il mène contre les pharisiens deviennent quelque chose qui les rendrait étrangers les uns aux autres. Ils sont tous fils d'une alliance qu'ils aiment respecter. Et donc la question, c'est comment entendre.
Plongeons dans cette parabole avec vous. Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Premier personnage, campé par Jésus, un homme identifié à sa richesse ?
Exactement. Ce qui frappe, c'est qu'il n'a pas de nom et il est identifié uniquement à travers sa propriété, sa possession. En plus, il faut savoir que les deux choses qu'on nous dit indiquent un luxe assez important. Le lin, c'est un produit d'importation d'Égypte à l'époque. Donc du coup, c'est pas n'importe quoi. Le pourpre indique une appartenance à une classe de gouvernance, soit royale, soit autre. Mais en tous les cas, c'est des gens qui ont l'habitude de dire ce qu'il faut penser, ce qu'il faut faire, sans le faire nécessairement eux-mêmes. Voilà. Donc, c'est un peu ce groupe-là dont on parle.
Un homme qui en impose.
Qui en impose. Et dire que là, tous les jours de sa vie sont des jours de fête, ça veut dire qu'il ne connaît plus de quotidien laborieux.
Et il ne connaît pas le manque.
Non.
Alors, devant son portail, gît un pauvre nommé Lazare, couvert d'ulcères, qui lui aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombent de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Second personnage, lui, il est nommé.
Exactement, il est nommé et évidemment son nom a un sens très important.
Lazare.
Lazare, ça se traduit « Dieu est mon secours » et on peut même dire « Dieu a été déjà mon secours ». Dieu m'aide, m'a aidé et m'aidera encore. Donc dans les langues sémitiques, la succession des temps ne correspond pas nécessairement à notre français. Donc du coup, et le passé, et le présent, et l'avenir sont contenus dans ce nom, qui est un nom qui indique donc une relation. Alors que le riche n'a que de lien à une propriété, à quelque chose qui a une objectivité, mais qui n'est pas une relation d'échange.
Lazare est pauvre et malade. Il cumule. À l'époque, ça n'est pas rien.
C'est même très, très important de bien souligner parce que on a une certaine vision que la richesse est signe d'une bénédiction de la part de Dieu et la pauvreté et la maladie cause de quelque chose qu'on n'a pas bien fait dans sa vie. Donc, si on est pauvre et malade, on a certainement fait quelque chose qui le mérite.
Lazare est installé devant le portail de la maison du riche. On peut donc imaginer déjà une sorte de clôture entre les deux personnages, mais aussi une clôture symbolique entre deux mondes qu'on a déjà commencé à décrire. Le monde du plein, où il n'y a pas de place pour le manque, et puis ce monde de la recherche, hein, de la nourriture, sûrement du regard puisqu'il est malade.
Et donc on nous parle même expressément du désir de Lazare. Il aurait bien aimé se rassasier, mais en fait la seule compagnie, ce sont les chiens. Et donc là, il y a plusieurs lectures possibles, parce que habituellement dans la Bible, les chiens, c'est pas vraiment des animaux de compagnie, hein, donc c'est pas trop sympa. Ils viennent chercher des lécher ses ulcères. On pourrait imaginer là que ce soit la seule compagnie qu'il a, et que c'est une certaine miséricorde de la part des chiens, et que le riche est moins qu'un chien, si j'ose dire, parce qu'il ne vient pas s'occuper de celui qui aurait besoin de soins. On peut aussi dire que dans son malheur, même le monde des animaux ne le respecte pas, le fait souffrir davantage. Donc il y a un abîme de désirs non assouvis qui le caractérise.
Agnès von Kirbach, nous regardons la parabole de ce dimanche. En Luc, je le rappelle, le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Même finitude pour les deux hommes, donc les deux hommes vont mourir, mais ça n'est pas la même issue après, puisque l'un est emporté directement dans le sein d'Abraham et puis l'autre est mis en terre.
La même finitude, la mort est réelle pour les deux. Mais même dans la mort, il y a deux traitements différents. Il y a un vrai enterrement, probablement somptueux, pour le riche. Et ben pour le pauvre, il y a juste les anges qui arrivent.
Que représente la figure d'Abraham ? Je suppose qu'elle n'est pas choisie par hasard. Être emmené dans le sein d'Abraham par les anges, ça fait référence à la première alliance ?
Ça fait certainement alliance à la première alliance, mais il est surtout important, ça reprend simplement les représentations de l'au-delà du temps de Jésus. Donc le sein d'Abraham est le lieu de la béatitude, le lieu d'accueil en attendant le festin du royaume. Et comme le riche dit après, c'est un lieu de torture, c'est un lieu de flamme, c'est ce que l'on se représente du lieu de la perdition. Donc, sur ce point-là, Jésus n'invente rien du tout, il fait appel
à l'imaginaire collectif de l'époque. Alors on va en parler justement, puisque détail sur l'au-delà dans cette parabole. Au séjour des morts, le riche était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, Père Abraham, prends pitié de moi, envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffle terriblement dans cette fournaise. Luc nous dit que donc ce riche est à la torture, mais qu'est-ce qui le tourmente ?
Heureusement, le texte ne nous le dit pas. Enfin, il évoque que cette solitude dont, du coup, il a pris conscience, devient une vraie tourmente.
Une torture.
Une torture. Donc ça, c'est la première chose qui est très importante, de voir que finalement, la situation terrestre est la même dans l'au-delà, sauf que, à ce moment-là, il a pris conscience qu'il est totalement isolé.
Oui, surtout que, alors que de son vivant, visiblement, le riche ne voit pas, ne parle pas, ici, il nous est dit qu'il voit Lazare et qu'il crie. Donc, il commence à sortir de sa bulle.
Il commence à sortir de sa bulle et surtout, tout à fait étonnamment, il connaît Lazare. De son vivant, on avait l'impression, on s'est dit, ça peut m'arriver aussi que je ne vois pas les pauvres parce que c'est une pauvreté cachée, je suis occupée. Non, il connaît Lazare de nom dans l'au-delà. Donc, on ne peut pas dire, il ne savait pas. Il savait très bien.
C'est-à-dire qu'il n'a pas vu alors qu'il aurait pu voir.
Il a vu, mais il a fait un choix de ne pas intégrer ce qu'il a vu dans sa vie quotidienne. Donc du coup, c'est infiniment plus nuancé. Parfois, on lit cette parabole pour dire, c'est encore un de ces clichés. Les riches d'aujourd'hui vont être en enfer dans l'au-delà et les pauvres d'aujourd'hui. Ça, c'est une simplification outrancière. C'est pas du tout l'intérêt de la parabole, mais c'est pour nous dire ce que tu vois sans l'intégrer pour faire sens à ta vie, c'est vraiment un gaspillage de l'essentiel de ton humanité.
Oui, ce que vous dites, c'est que l'essentiel, c'est pas d'être riche ou pas.
Non.
On peut être riche et voir l'autre.
Tout à fait.
Et on peut être pauvre et ne pas le voir aussi.
Voilà. Donc, je pense qu'il est très, très important de ne pas en faire un simplisme.
Une morale.
Ouais. Comme si la richesse en tant que telle était condamnée. Et c'est là où je reviens à la figure d'Abraham, où c'est tellement important. Abraham est considéré comme un riche. Et c'est le riche Abraham qui prend la défense du pauvre. Donc, du coup, c'est pas riche ou pas riche en tant que tel, mais comment est-ce que je possède ce qui est à ma disposition ?
Agnès von Kirpach, nous continuons à regarder cette parabole au chapitre 16 de Luc, versets 19 à 31. Alors que le riche veut que Lazare s'occupe de lui, Abraham lui répond « Mon enfant, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. » Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Comment comprendre ces versets qui peuvent faire peur ?
Tout à fait. C'est très important de voir le tout dans son ensemble. Donc, le pauvre, d'abord, il est accueilli au festin des patriarches. Donc, il trouve enfin la communion qu'il a désirée pendant toute sa vie.
La consolation.
La consolation, mais ce n'est pas simplement quelque chose d'abstrait. La consolation nous vient parce que quelqu'un se tient à côté et avec nous dans le bonheur et dans la difficulté. C'est ça, la consolation, de ne pas être obligé de porter seul ce que la vie comporte. Dans la demande du riche d'être soutenu par Lazare, ce qui frappe, il demande un peu d'eau, il ne demande pas de la compagnie. Il est toujours encore braqué sur des choses.
La logique de l'avoir.
Exactement. Et donc, ne fût-ce qu'une goutte d'eau pourrait vraiment le soulager. Alors, il reste dans un total aveuglement par rapport à un essentiel qu'il voit pourtant. Il voit devant lui Abraham et Lazare ensemble. Et on vient de lui dire, c'est ça le sens de la vie, être ensemble. Et ce qu'il demande, c'est pas du tout la communion. Il demande juste une chose et un porteur pour une chose. Et à nouveau, Lazare va être simplement exécutant d'un de ses désirs.
Il est question là encore d'un grand abîme. On a évoqué déjà l'abîme entre la maison fermée et puis cette rue adossée contre la maison, hein, et cette séparation entre Lazare et le riche.
Oui.
Donc on peut penser qu'elle existait déjà, vous l'avez déjà dit, du vivant des deux personnages. Elle existe encore dans l'au-delà.
Et c'est là où c'est surtout très important de dire, premièrement, ce n'est pas une description de l'au-delà. Donc ce n'est pas ce à quoi il faut s'attendre comme une punition. Donc ça, c'est la première chose à bien souligner. Et la deuxième chose, ce qui est assez étonnant quand même, c'est que pendant la vie, l'abîme qui existe entre eux deux pourrait être comblé. Si la connaissance qu'a le riche de cet homme à sa porte lui inspire un geste de partage, quelque chose se comblerait.
Il y a un pont qui se fait.
Voilà. Alors que dans l'au-delà, c'est trop tard. La mort fige toute possibilité de conversion, toute possibilité de changement. Et c'est là où est l'intérêt de Jésus quand il raconte cette histoire à ceux qui sont assez figés dans leur attitude vis-à-vis de lui, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la compréhension de Moïse et des prophètes, on va certainement en reparler. Mais ici, le plus important, c'est de dire, ne te dis pas, je changerai plus tard.
C'est pour les réveiller, c'est pour les exciter aussi un peu.
Exactement,
à changement.
Pour leur dire, est-ce que vous pouvez pas concevoir que le monde de Dieu est plus large que ce monde dans lequel vous pensez avoir déjà part au bien éternel.
Enfin une bonne nouvelle, Béatrice Soltner.
Agnès von Kirpar, nous avons compris que la parabole, elle est là pour réveiller ceux qui sont enfermés dans une logique. Donc elle utilise des images symboliques, métaphoriques, assez fortes. Nous arrivons à la finale de ce texte. Alors que Lazare et le riche sont irrémédiablement séparés, le riche se souvient qu'il a des frères. Et il demande à Abraham de leur envoyer Lazare. Qu'il leur porte son témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Comment comprendre ce passage ?
Alors, c'est assez choquant, dans le sens que le riche reste vraiment enfermé dans son monde. La seule chose qui l'intéresse, c'est son monde à lui, donc ses frères, qui sont dans la même situation que lui.
Aussi riche.
Aussi riche, aussi aveugle par rapport à un monde complexe. Et donc, Lazare, une fois il voulait qu'il soit serviteur de ses désirs pour le soulager, mais pas pour rentrer en communion. Et cette fois-ci, il doit devenir porteur d'un miracle. Revenir de la mort, comme ça. Et cette demande montre que à aucun moment, il y ait comme une ouverture qui se crée dans le riche pour dire « Ah, maintenant j'ai compris ». J'ai raté quelque chose. Donc là, c'est simplement pour souligner encore une fois combien cette séparation est vraiment, par choix du riche, infranchissable. C'est le riche qui, chaque fois, creuse davantage sa propre exclusion.
Abraham dit aux riches, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Donc Abraham renvoie à la tradition, hein, qu'ils lisent, ces pharisiens, ils la connaissent, hein, les Écritures.
Tout à fait. C'est là où on voit combien Jésus est fin dans sa pédagogie pour amener ceux qui ne comprennent pas à rechercher. Le renvoi à ce qui leur est commun, Moïse et les prophètes, est une manière de dire « je ne vous dis rien qui ne soit pas en lien avec ce que nous avons reçu comme héritage spirituel, cette première alliance. » Et pour nous, aujourd'hui, c'est un choc assez important, hein, parce que quand on dit dans nos églises « ben allez lire l'Ancien Testament », les gens disent « mais enfin, c'est complètement dépassé, on a les évangiles, ça nous suffit. » Et je dis « non, regarde ce que cette longue trame dans l'histoire du monde veut dire pour toi aujourd'hui. Ne te défile pas trop vite de ta responsabilité historique. Il y va de la qualité même de ta vie d'éternité. Du coup, il y a beaucoup, beaucoup de ce que nous pouvons déjà comprendre en prenant au sérieux notre monde et dans lequel le Christ lui-même inscrit un rayon d'éternité. Si on se met à entendre les Écritures comme il les entend, quelque chose pour nous s'ouvre, quelque chose fait signe, quelque chose devient lumineux et notre manière si souvent de fermer les yeux devant les grandes questions de notre monde, c'est aussi parce que on se sent incapable et impuissant. Donc, c'est pas nécessairement parce que on n'a pas envie de les prendre en charge. Ça peut être une motivation, mais une autre motivation peut être, on sait pas comment faire, ou notre société demande qu'on travaille 12 heures sur 24 ou même plus. Il y a des pressions culturelles, sociales, politiques, économiques sur nous qui font que on se dit, mais j'y peux rien. Et là, le texte dit, bon, t'as pas lu? Tu peux quelque chose. T'as quand même été appelé à la liberté, non pas à l'esclavage. Sors-en. Vas-y pour bien prendre le goût de la communion déjà possible aujourd'hui et Dieu vous mènera plus loin. Mais comment c'était aujourd'hui?
Agnès von Kirbach, la fin du texte, c'est le riche qui dit, mais si quelqu'un revient de la mort, dire à mes frères ce qu'il faut faire, là, ils croiront. Donc, besoin du miracle. Qu'est-ce que vous diriez là-dessus? C'est une illusion?
Oui, parce que le spectaculaire hors ordinaire n'est pas la foi dont parle la Bible. La foi dont parle la Bible, c'est une confiance au quotidien, même si je ne comprends pas tout, même si je n'aperçois pas tout. Et ici, notre récit pose quand même de manière fondamentale la question à nos églises célébrantes, est-ce que au moins nos liturgies peuvent être le lieu où nous faisons la fête ensemble? La fête de l'éternité, du royaume des patriarches de Dieu, quelle que soit l'image qu'on utilise, ne peut avoir lieu que lorsque nous nous habituons dès aujourd'hui à rentrer dans une fête qui connaît le partage.
Partage entre les différentes conditions sociales, les différentes personnes qui constituent notre monde. Et donc, pas de spectaculaire, mais un accueil de l'amour de Dieu au quotidien qui fait qu'on va ouvrir son espace.
C'est ça.
Que n'a pas pu faire le riche.
Oui, oui. Et je pense que là, c'est peut-être intéressant d'ouvrir encore un peu plus et dire que ce n'est pas simplement une question d'argent ou pas d'argent, mais c'est tout simplement l'autre qui vit autrement que moi, qui a une culture différente, qui a une vision différente, qui souffre d'autres choses que moi. Mais ensemble, nous pourrons nous soutenir dans cet accueil de Dieu qui veut que les uns comme les autres soient marqués du sceau de son alliance.
Donc la parabole, elle est là pour nous choquer, nous provoquer par des images un peu fortes. Mais l'idée, c'est d'arriver à nous faire comprendre qu'il y a un essentiel.
C'est ça. Et je crois qu'il y va de manière fondamentale du sens de la vie. Est-ce que le sens de la vie est dans le précaire des relations ou dans l'assurance des sacs d'argent sur lesquels je me couche? Le mouvement terre et ciel peuvent se rencontrer quand nos ouvertures intérieures vont vers une qualité de partage qui n'est pas liée aux avoirs. Et ces avoirs, ça peuvent être, comme dit la parabole, l'argent. Mais l'argent symbolise notre rapport au travail, notre rapport éventuellement au sport, à la compétition, à la consommation, à la culture. Tout peut devenir fixation.
Tout ce qui nous possède.
Et qui fait que finalement, nous sommes les esclaves de ce qui est en face de nous.
Un grand merci à vous, Agnès von Kirbach. Merci pour votre regard artistique aussi sur cette parabole. Ceux et celles qui veulent relire ce texte, c'est dans Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Merci à Pierre-Henri Paget à la technique.